Bonsoir Marie Richeux.
Bonsoir Sylvie.
On est avec vous pour Officier Radio, qui donc a été édité aux éditions Sabine Vespizer. Quel est votre rapport à la lumière au quotidien ?
Il est essentiel. C'est marrant que vous commenciez par là. Il pourrait presque être central dans ma vie. Je suis stupéfaite que vous commenciez par là. Je suis stupéfaite parce que c'est très intime, c'est très... ça me constitue, je crois, de chercher la lumière, de regarder où elle se pose, comment elle se pose, avec quel mouvement. Du coup, je suis hyper curieuse de savoir comment vous vous êtes dit que je pouvais avoir ce rapport-là à la lumière.
J'ai lu votre livre.
Ah, d'accord. Non, mais c'est vraiment très important pour moi. Depuis qu'on a un téléphone portable dans la poche, je passe mon temps à faire... J'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Julie et je lui envoie et on s'envoie des relevés de lumière. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même... voilà, c'est sérieux.
Oui, oui, tout à fait.
Excessif, je ne sais pas, mais c'est du sérieux. Oui, oui. En tout cas, la façon dont une architecture modèle des reflets, la manière dont, par exemple, j'ai la chance de vivre près de l'eau, du coup, ça crée énormément de mouvements de lumière chez moi, ce qui fait que je ne déménagerai pas. Je suis attentive à la qualité de lumière. Je vis dans une ville où elle bouge tout le temps. Elle va du gris laiteux au bleu éclatant comme aujourd'hui. Quand j'ai la chance de me promener en France ou ailleurs, ça peut déterminer les endroits où je vis. Donc c'est assez sérieux.
Quand je dis excessif, c'est aussi parce qu'on voit bien dans votre livre que vous êtes une écrivaine entière. Il n'y a pas de choses à demi-mesure dans votre vie.
Des choses à demi-mesure dans
oui,
ma vie,
oui.
Vous voulez dire ?
Oui, dans votre rapport au monde, aux choses.
Oh, quand même, si. Puis ça se travaille d'arriver petit à petit à de la mesure. on peut d'ailleurs, très bonne nouvelle pour nous tous et toutes, on peut même être entier puis devenir mesuré. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. En revanche, qu'il y ait une forme d'entièreté dans mon rapport au monde, c'est juste. Ça aussi, ça me constitue. Qui est une forme de chemin vers la mesure, c'est juste aussi, mais j'en fais pas non plus un horizon nécessairement viable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à perdre dans la mesure aussi.
Dans votre livre, on marche à tâtons avec vous dans l'écriture. On va d'une voie à une autre. Mmh. On est un peu dans le brouillard. D'ailleurs, on l'est au début, on l'est à la fin.
Absolument.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous me confirmez maintenant que vous avez un rapport à la lumière qui est très attentif.
Ouais.
Et en même temps, on a presque l'impression que vous pourriez écrire dans le noir.
Ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est très juste. Et c'est quelque chose qui se dévoile petit à petit dans le texte où je dis qu'on écrit... derrière une porte ouverte ou fermée, mais plutôt fermée. Je pense que j'ai écrit beaucoup ce livre à l'aveugle pendant longtemps, sans avoir besoin de savoir ce que je faisais, en désirant ne pas trop savoir ce que je faisais, en me protégeant peut-être de savoir ce que je faisais. Et puis, une fois que j'ai vu comment j'avançais, j'ai pris note, voilà, du chemin que j'étais en train de tracer. Ça m'a intéressée, ça m'a émue, ça m'a fait peur. Là où ça m'a fait peur, j'ai été un peu plus loin. Là où ça m'a émue, j'ai été plus à tâtons encore. Là où ça m'a intéressée, j'ai cherché. Mais on dit souvent qu'on apprend en faisant. Mais je crois que, d'ailleurs, la citation de l'inspecteur que je place en exergue dit qu'on peut peut-être apprendre ou aussi bien apprendre les choses en les vivant. De fait, j'ai appris ce livre en l'écrivant.
Et ce livre, donc, dans lequel vous nous embarquez dans une enquête qui n'est pas tout à fait une enquête, enfin, c'est très difficile de le résumer en un seul mot, et tant mieux.
Tant mieux.
C'est aussi toute sa force et toute sa singularité. Sur les traces, en tout cas, de votre oncle qui a disparu en mer. Et vous essayez de remonter un fil de mémoire, un fil affectif, un fil en tout cas qui pourrait être plusieurs fils, à vrai dire.
Ouais.
Dans cette histoire... On a la sensation aussi qu'on est avec vous et que quand vous trouvez des écrits, puisque vous allez chercher des archives, vous ne les lisez pas, vous les entendez.
C'est beau cette idée-là, en tout cas d'entendre en lisant. Ce qui est sûr, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il ne suffisait pas de lire une seule fois une chose pour l'entendre. Ça vaut pour tout le temps, mais ça vaut principalement pour la qualité des archives que j'ai trouvées. C'est-à-dire qu'au-delà de certains aspects techniques qui sont liés à des archives historiques de la marine marchande, etc., Je pense qu'il y a des choses qu'il faut lire plusieurs fois pour les entendre. Par exemple, et désolée pour la crudité immédiate de ces termes-là, mais par exemple, temps de corps carbonisé, je pense qu'on le lit une fois, puis on le lit deux fois sur un bateau, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a tout de suite entendu. Et par exemple, je crois que le moment où j'entends enfin ce mot-là, il arrive page 180 ou page 200, parce que je parle avec quelqu'un dont je ne connais pas le visage, que j'entends, qui me le dit au téléphone, et qui me dit « il faut que vous compreniez ce que je vous dis là, je vous parle d'une température à, voilà, à tant de degrés, il n'y a plus de corps, ce sont des corps carbonisés ». Tout ça pour dire qu'en effet, ce qui se passe peut-être, pour aller dans la remarque fort juste que vous faites, c'est que je lis plusieurs fois pour entendre. Voilà.
Il y a autre chose qui est très intéressant dans ce livre, c'est votre façon de faire des ponts entre plein de choses. D'abord, entre les légendes qui tournent autour de l'univers des marins, les légendes et les rituels, mais il y en a tout autant, finalement, sur la terre dont vous venez. Mmh. Et puis, vous nous invitez aussi à observer les légendes de famille. Mmh. Nous avons tous des repères qui constituent des gestes de nos parents qui deviennent des légendes. Mmh. En cela, votre livre a une tonalité assez universelle, puisque vous nous invitez à regarder notre propre intériorité familiale. Mmh. En l'écrivant, vous l'avez découverte?
Un peu des deux. Je pense qu'en l'écrivant, je l'ai reparcouru, cette légende ou ces légendes. Donc il y a plusieurs légendes, on va dire, celles que vous appelez du monde maritime ou du monde de la terre, en effet, de cette petite exploitation agricole bretonne dans laquelle mon père a grandi. Il y a des légendes que j'ai découvertes. Je dis d'ailleurs, sous forme parfois de liste, j'ai découvert que les femmes de marins tricotaient des pulls avec des motifs suffisamment singuliers pris dans la laine pour qu'elles soient en mesure de reconnaître le corps des marins si le visage ne l'était plus.
Bon, ça c'est incroyable.
J'ai des frissons à le redire, mais ça je le savais pas. Donc ça fait partie, on va dire, des légendes que j'ai découvertes et que j'ai aimées. Et comme vous dites, quand j'écris, il y a une partie de mon travail qui consiste, pour ces textes-là, je pense à Sage-Femme et à Climat de France, les livres précédents, qui consiste à mettre ensemble, quoi, vraiment à tisser en effet. Donc quand j'apprends ça, ça rentre. D'autres légendes, par exemple, la proéla, donc une coutume ouessantine, ou faute d'avoir des corps, quand les marins ont disparu en mer, il y a des petites croix qui sont fabriquées ou bien avec de la cire, ou bien avec du tissu, ou bien avec des brindilles. Ces croix ont la valeur sentimentale du corps. Il y a une veillée des toutes petites croix. Donc, il faut s'imaginer des tables sur lesquelles on pose des toutes petites croix à défaut d'avoir la dépouille d'un frère, d'un père, d'un ami, d'un époux, bon, d'un fils. Ça aussi, je le découvre. Je ne l'ai pas découvert au moment d'écrire le livre, mais je le redécouvre. Et puis, il y a ensuite, on va dire, les légendes plus proches, quand vous dites de retraverser des mythologies familiales. Donc ensuite, il y a les légendes de mon père. Et ça, je ne les découvre pas, je les écris. Le propre des légendes de mon père, donc voilà, j'en déplie plusieurs, notamment liées à un club de foot dans les années 70, en Bretagne, et à la manière dont ce club de foot vient épouser des valeurs politiques et des valeurs de village, etc. Chose que j'ai beaucoup entendue. Donc, qui a vécu avec un père, une mère, que sais-je, un oncle, une tante, un grand-père? On a entendu ces histoires-là, qui sont des histoires dites plusieurs fois, dont on sent que la personne a du goût pour les dire, ou du drame, ou voilà. Et donc ça, je ne les ai vraiment pas découvertes du tout. En revanche, je pense que je les ai beaucoup entendues et beaucoup aimées. Et là, je les ai écrites, ce qui est un geste un peu différent.
Est-ce que vous avez découvert leur portée sur qui vous êtes?
Oui, pour une part. Je pense que le livre, sans le brandir avec trop d'éclat, ni trop de certitude, quoi, ausculte la façon dont certaines des histoires qui sont prononcées dans notre enfance, dans nos vies, impactent nos vies, impactent nos corps, impactent parfois nos trajectoires. Et donc, probablement, c'est une des hypothèses que fait ce texte, avoir entendu depuis ma plus petite enfance Mon frère est mort, disparu en mer, est une phrase qui a dû faire son chemin en moi, manifestement, puisque j'y reviens, puisque quelque chose de ces échos m'a mise au travail à l'écriture, et qu'il faut, je crois, pour se lancer dans l'écriture d'un livre, être quand même porté par un désir, par une question, par une énergie. Donc, c'est la preuve que cette phrase, elle a eu un impact sur moi. Après, savoir exactement, déplier exactement les impacts, j'en fais quelque chose de romanesque dans le texte. Par ailleurs, d'un point de vue intime, il est possible que moi aussi, j'ai compris des choses, mais qui ne sont pas nécessairement entrées dans le texte. Mais oui, en tout cas, ce livre-là, il fait le postulat, mais je crois, comme tous mes livres, en fait, il fait le postulat que des choses qui sont vécues ou dites ou pas dites, ce qui a parfois la même force, impactent nos existences.
Et à force d'écrire et d'interviewer des auteurs, est-ce que vous avez la sensation que vous lisez des signes de la vie autrement ?
Je ne sais pas si c'est à force d'écrire, mais c'est quand même une hypothèse intéressante. Et notamment, je la souligne dans ce texte-là en reproduisant, pas in extenso, et en le retravaillant, un entretien que j'ai eu avec Daniel Mendelsohn,
absolument,
un auteur américain qui a écrit, entre autres choses, le très beau livre qui s'appelle « Les disparus » et « Une odyssée » et « Trois anneaux bon. ». Et Mendelsohn, dans cet entretien que j'ai vraiment eu avec lui, et que je relis avec le fait que j'ai découvert, non loin d'ici d'ailleurs, dans une bibliothèque, Les disparus de Mendelssohn, qui a été un livre très important, qui continue d'être un livre très important pour moi, dit, en fait, le réel, et encore plus quand il a été percuté par les grands événements dramatiques, notamment du XXe siècle, et notamment la Shoah, il nous arrive par éclat, par débris, par choses inassimilables. Le réel, il est éclaté, quoi. Et il n'est pas lisible. Et un des gestes de la littérature, c'est face au caractère épars et morcelé du réel, de rassembler et le réel et nous-mêmes pour produire du sens. Mendelssohn dit, c'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps, nous racontons des histoires, nous ne savons pas faire autrement que raconter des histoires, sans quoi, le sous-texte de Mendelssohn, c'est on ne peut pas vivre, en fait. Et il le dit de manière évidemment prégnante parce qu'il a, lui et sa famille, ont affaire à la catastrophe, la grande catastrophe. Mais il le dit aussi de nous toutes et tous. Nous ne savons pas faire avec le réel autrement qu'en le reliant. Et c'est pourquoi, dit Mendelssohn, je continue en le paraphrasant, c'est pourquoi je suis depuis l'enfance obsédée par l'idée de faire quelque chose des traces et les relier. Et on l'entend, en fait, dans ce que dit Mendelssohn. Je passe par Mendelssohn, je vais répondre me concernant, mais en fait, on entend bien que c'est un mélange entre lui en tant qu'humain et lui en tant qu'écrivain, qui par ailleurs est helléniste, qui par ailleurs est archéologue. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Il est un homme qui relie les débris épars du réel. Mais il le fait en littérature, mais je suis persuadée, je ne le connais pas du tout, mais je suis persuadée qu'il le fait aussi au quotidien dans sa vie. Pour revenir à moi, parce que évidemment, citer longuement et aussi longuement Mendelssohn, c'est pour faire signe et dire, c'est le cas de le dire, combien cette vision du monde me parle. Je suis très attentive aux signes du réel. Je m'emploie à les relier en littérature comme dans ma vie. Mais j'essaie de ne pas faire de ce geste-là un geste trop superstitieux, trop obsédé par l'idée qu'il y ait du sens partout et que le réel nous bombarde de signes qui devraient nous parler. Non, je ne crois pas. Je pense que le réel est comme ça et que c'est simplement comment on s'en accommode. Voilà. Et je pense qu'en effet, excusez-moi, je pense qu'en effet, dans ma manière de vivre avec l'écriture, il y a une façon de s'accommoder des débris du réel.
Parce qu'en vous lisant, on a la sensation qu'il y a une certaine tranquillité chez vous qui s'oppose par ailleurs à une angoisse dont vous dites que vous l'avez parfaitement bien héritée de votre papa.
Oui, pas que.
Entre autres, il y a une forme de tranquillité justement avec certains signes, comme si c'était un constat, mais qu'on pouvait passer à autre chose une fois ce constat fait.
Ouais. Eh ben, merci, ça me touche, ça m'encourage aussi. Parce que Ça me touche parce que je l'ai déjà dit, mais j'aime vraiment beaucoup que les livres soient tranquilles. Et je pense qu'il y a des très grands livres très intranquilles, mais qui nous parviennent par leur tranquillité. C'est un antagonisme, mais je trouve ça toujours extrêmement précieux, les gens et les textes qui parviennent à travailler les plus difficiles intranquillités de l'existence, mais en nous les rendant dans une forme de tranquillité. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, si, absolument.
Donc, je suis très heureuse si Officier Radio peut atteindre cet endroit de tranquillité, de lumière. Et c'est pas grave, ou c'est d'autant plus vrai que ça va avec l'angoisse, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, et je commence d'emblée avec ça. Voilà, les premières pages ne différencient pas ce que c'est de vivre et l'angoisse ou l'inquiétude, quoi. Voilà. Et le constater, je pense que c'est déjà avoir déjà fait un petit pas, quoi. C'est qu'une fois qu'on a constaté ça, on se dit bon. D'accord, donc déjà, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a résumé récemment cette histoire en disant « Oui, bon, l'angoisse, c'est la vie. C'est désagréable, hein ? Mais c'est comme ça. »
La scène d'ouverture à laquelle vous faites écho est une scène assez troublante dans laquelle il y a de la pudeur qui explose, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Écrire un livre sur des gens qui ont disparu, est-ce que c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir aimé et d'avoir été aimé avant de mourir ?
Oui. C'est très beau. Je reviens aussi à ce que dit Mendelssohn, qui enquête donc sur une partie de sa famille décimée par la Shoah, et qui finit par constater qu'on est plus inscrit dans le monde que ce qu'on croit, et que au final, les traces qu'on laisse dans l'existence, le témoignage des liens que nous avons tissés, y compris quand la vie fut courte ou quand elle fut particulièrement percutée par l'histoire ou le drame. En fait, c'est souvent plus maillé que ce qu'on peut imaginer. Alors, je ferai une différence en disant que ce qui se passe dans la scène d'ouverture, qu'on peut peut-être détailler, donc c'est une scène qui se passe, et j'y insiste, dans la lumière d'une fin de journée, d'une fin de mois d'août, lumière sublime dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, c'est la nuit d'un mariage, et il y a une sorte de conversation qui a lieu au loin, qui brille comme ça, comme une boule de feu, qu'on a très envie de rejoindre. Conversation qui se tient entre le personnage de mon père et le personnage de mon cousin. Et comme vous dites, j'avance vers cette conversation, comme vers une boule de feu, et quand j'arrive, il est question de se souvenir ou pas d'un match de football. Est-ce que tu t'en souviens ? Non, je m'en souviens pas, mais cette action, c'était incroyable. Le lendemain, tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens vraiment ? Bon, et ça monte, jusqu'à est-ce que tu te souviens de ce soir où tu es venu chercher à la ferme et que tu es emmené comme ça dans les chemins, dans ta Renault 15 ? Tu t'en souviens ? Voilà, et ça grimpe et on comprend que voilà, mon cousin demande à mon père s'il se souvient de ce moment qu'ils ont eu ensemble dans la Renault 15, dans les prés, quelques jours après la mort de mon oncle, père de ce cousin, qui donne lieu à une déclaration, un peu aidée par l'émotion et par l'alcool, où le personnage finit par dire « Tu as été un père pour moi ». Et vous êtes sympa de dire que c'est pudique, parce que ça finit presque dans une forme d'impudeur, mais je crois que cette impudeur-là, elle est... Un pudeur, je sais même pas si c'est un. Non, peut-être que c'est vous qui avez raison. Peut-être que c'est pudique jusqu'au bout, en fait. Ouais.
Moi, je la trouve éminemment pudique, même si elle a beaucoup de mots qui racontent l'émotion. Mais on sent qu'il y a malgré tout énormément d'amour contenu.
Oui, oui. De partout d'ailleurs.
En tout cas, je l'ai lu comme ça.
Oui, oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Elle, c'est vraiment pas une scène d'effusion d'amour. Mais peut-être que, en réalité. C'est quand même des mots d'amour qui sont prononcés.
Absolument.
Et peut-être qu'ils sont prononcés ou que je les entends pour la première fois de manière si claire et que dans un champ magnétique de pudeur, d'un seul coup, ils me sautent aux oreilles, quoi. Mais ils demeurent prononcés dans une certaine retenue, ouais.
Mais c'est un portrait de famille très intéressant en cela... que c'est une famille, j'ai envie de dire, commune, ouais. Puisque il n'y a pas de secret de famille, on sent qu'on peut parler de tout, et en même temps, on n'en parle pas.
parce que vous dites dans votre livre que finalement vous avez une jeunesse qui n'aura pas été teintée d'une mesure dramatique sur cet épisode, mais l'épisode a quand même existé et vous le savez. Et donc c'est une famille, j'ai envie de dire commune, dans le sens où il y a beaucoup de familles comme celle-ci où on ne dit pas, mais il suffirait de poser la question. On a la sensation qu'il suffirait de poser la question et en même temps personne n'ose la poser. Et tout d'un coup vous la posez et votre livre est bouleversant. Parce que cette pudeur, elle est quand même continue. Même dans votre propre relation à ce que vous lisez, il y a cette forme de retenue, d'effusion qui frôle parfois la poésie.
C'est-à-dire
On a la sensation dans votre livre qu'on est un peu avec vous comme en balade, parfois. Bon, vous pouvez aller en Italie, vous revenez, vous allez voir votre tante, vous allez voir des tas de gens, vous appelez des gens... Et puis, il y a des moments où vous vous absentez, vous semblez vous absenter vous-même de votre mission. D'ailleurs, vous dites à un moment donné que vous aspirez à des moments de disparition complète, ce qui est assez troublant quand on écrit un livre sur la disparition de quelqu'un d'autre. Mais on a vraiment la sensation que vous avez des moments d'absence. Où est-ce que vous êtes à ce moment-là ? Dans un livre ? Dans ce livre ?
J'adore cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre-là, et je ne l'ai pas compris tout de suite, il a été le moment pour moi de me demander quel rapport j'entretenais avec la disparition. Alors, pas la disparition dramatique comme celle de mon oncle en 79, mais avec l'idée de disparaître. Et même pas l'idée de disparaître qui aurait à voir avec la mort. Vraiment plus... tac, disparaît. Bon, et je sonde ça.
Un petit côté ma sorcière bien-aimée.
Oui, un petit côté ma sorcière bien-aimée, exactement. Mais je sonde ça, parce qu'évidemment, sous des aspects rigolos de tac, je disparais, en réalité, bon, c'est quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus profond. Même si l'idée du livre, je crois, c'est d'aller vers l'aspect joueur. J'écris, je veux quitter un goût qui serait dramatique pour la disparition, pour rejoindre le côté joueur. Et je cite les enfants qui sont toujours d'un grand enseignement et tu te caches, t'apparais, ils sont tellement joyeux, c'est tellement rigolo, c'est tellement drôle, c'est tellement vivant. Donc l'idée, c'est de plus ça va, plus c'est joueur. Par exemple, il y a une scène où je me déplace en Italie, je décide d'aller enfin dans le port en face duquel a eu lieu un grand naufrage, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais du coup, tout ça part de deux bateaux qui se percutent au large de Civitavecchia, donc je finis par aller à Civitavecchia. Et quand vous dites « Où êtes-vous quand vous vous absentez ?», en l'occurrence, là, en effet, je suis... en littérature, c'est-à-dire que les trois jours que je passe entre Civitavecchia et Rome, je suis dans mon texte, c'est comme si j'étais un petit personnage de papier, et puis je me regarde faire, je m'amuse de me regarder faire, je prends des routes, tout est un peu foireux, il fait trop chaud, c'est pas les bons trains, je jubile parce que je suis venue là pour écrire et que du coup, voilà, j'ai des choses à écrire, j'ai matière à écrire, dans ces moments-là, je m'absente par goût littéraire.
Mais est-ce que le réel vous heurte pour avoir besoin ou envie à des moments de faire un pas de côté ?
Je crois pas, parce que je fais plutôt partie des gens qui scoltinent le réel et je suis pas en... Je sais pas, un retrait qui est un retrait protecteur. Et d'ailleurs, si j'avais la science de ça, je serais OK pour ça. J'aurais le goût pour ça, je crois. Je serais d'accord si je savais comment on fait pour se protéger du réel et disparaître en s'en protégeant. Et je pense qu'il y a des gens qui savent le faire. Je pense qu'il y a des gens qui s'absentent ou qui flottent ou qui prennent de la drogue. Et puis, ils s'éloignent du réel parce que ça les cogne trop fort. Moi, heureusement ou malheureusement... Il y a plein de fois où le réel me cogne trop fort, mais je sais pas en disparaître complètement. Donc c'est pas ce genre de disparition, c'est encore autre chose. Si vous avez la clé, je prends.
Mais alors du coup, est-ce que cette disparition n'a pas quelque chose d'un peu poétique, c'est-à-dire de la joie de disparaître un temps pour être dans l'écriture. Dans... Ouais. Parce que, paradoxalement, étant donné le sujet de votre livre, il est assez joyeux.
Ah, super. Je suis trop contente. En tout cas, il est vivant, j'espère.
Oui, ça, il est très vivant. Ouais. Et alors, vous écrivez aussi que... Vous écrivez pour, finalement, en finir une fois pour toutes avec le chagrin. Ça ouais. marche ? Ça marche ?
Non, il n'y a rien. Je peux vous dire un truc. Il n'y a rien qui marche définitivement. mais par contre, j'ai aimé pouvoir écrire. Donc, je suis dans les Archives nationales. J'ouvre un dossier dramatique. J'apprends des choses dramatiques. Je suis bousculée par le côté tangible de ce que produit l'archive, qui est que d'un seul coup... L'archive a cette puissance de reconvoquer l'événement. Bon, et je pleure en salle des Archives nationales, vraiment. Et je pleure un chagrin dont je ne connaissais pas la portée ou la lourdeur ou quoi. Manifestement, je dois constater que je pleure en fait. Enfin, je constate ça, quoi. Je constate mon chagrin. Moi, je ne l'ai pas connu, ce Charlot. Donc, je pleure quelque chose. Et en effet, la fin de ce chapitre, c'est bon, on pleure une fois pour toutes et puis c'est terminé. Et je ne sais pas si je me le suis vraiment dit dans la salle des Archives nationales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de d'écrire la scène, je me suis dit, c'est pas ce livre que j'ai envie d'écrire, en fait. J'ai pas envie de pleurer trop longtemps sur cette histoire. C'est vraiment pas ça. Et tout m'y aide. C'est-à-dire que le livre me met tellement en mouvement. Les gens que je rencontre sont tellement du côté de la vie. Et j'ai quand même, moi, un goût assez prononcé pour la vie, que du coup, je me suis dit, non, c'est vraiment autre chose que ce que j'ai envie d'écrire. Et il y a un chapitre important, central, où j'ai cette fameuse conversation, comme vous dites, la question simple qu'on n'a pas posée là, et puis qu'un jour, on pose. Donc, ça arrive dans ma vie. Un jour, j'ai rendez-vous avec mon cousin, il a 60 ans, j'en ai 40, et voilà, on est autour d'une table, et puis je la pose, la question, quoi. Je les pose, les questions que j'ai jamais posées. Mais je ne les ai jamais posées parce que je n'ai jamais eu l'idée de les poser. Enfin, ce n'est même pas parce que j'avais peur de les poser ou parce que c'était interdit de les poser ou juste ça ne m'était jamais venu à l'idée de prendre un café avec mon cousin et de lui dire « alors raconte-moi ». Et il me raconte et c'est dur, c'est un moment dur et pour lui c'est dur et je lui dis « on n'est pas obligé » et je me dis « mais en fait qu'est-ce que je fous là à remuer comme ça etc. » Et en fait la conversation elle bifurque. Et il se met à me parler de football. Et lui, il a 14 ans. Et il raconte que, en fait, 4 jours après la mort de son père, qui est, je le rappelle, une mort atroce dans des conditions atroces, il doit jouer à un super tournoi de foot. Et sa vie, c'est le foot. Et ses potes, c'est le foot. Et il fait beau. Et on les imagine, ces mômes qui courent, qui à peine l'école terminée, prennent leur mob, viennent au terrain de foot. Et tout le monde, je sais pas, ce village, il palpite autour du foot, comme plein de villages en France. Et en fait, il me raconte ça. Et je rentre chez moi. Et ce que j'ai dans le cœur n'est pas deux navires qui se percutent, des gens qui brûlent, des familles décimées, des corps disparus en mer, mais un match de foot, des gamins de 14 ans, de la lumière, une pelouse qui a été tondue avec l'agriculteur du coin, un tournoi de foot qu'on espère gagner, une fourgonnette qui déplace des mômes dans les Côtes d'Armor. J'ai que de la vie, en fait. Que de la vie, que de la joie, que de la lumière. Donc je me dis, bon, mais en fait... Et ça ne veut pas dire regarder là pour ne pas regarder là. Ça veut dire que c'est les deux en même temps, quoi. Manifestement, cet été-là, c'était à la fois ce drame horrible et ce tournoi de foot.
Et vous démarrez par une scène qui est une déclaration d'amour. En réalité, la totalité du livre est une déclaration d'amour.
Pas mal, ouais.
Avec des gens qui ne sont pas habitués ni à pleurer, ouais, ni à dire je t'aime.
Oui, moi, je suis assez habituée à dire je t'aime.
Alors à cet endroit êtes-vous en fait un élément très important dans cette famille, pas seulement parce que vous avez posé la question,
ouais,
mais aussi parce que très tranquillement vous apprenez à dire.
Que de belles et profondes questions. Alors je crois que dans ce livre j'apprends pas tant à dire parce que j'ai la chance de savoir le faire, ça on va dire. En revanche, je pense que ce que m'a appris ce livre est d'une manière tout à fait nouvelle et je pense que c'est quelque chose qui va enfin, qui est déjà en train de bouger des trucs dans ma vie, dans, dans ce que j'écris et tout, c'est que j'ai pu l'écrire. Et comme vous dites, j'ai pu l'écrire assez tranquillement. Alors que je le raconte dans Officier Radio, et ça ne veut pas dire, comme je le dis tout à l'heure, il n'y a rien qui est réglé définitivement, mais alors que je pense que ce n'est pas très facile pour moi d'apparaître. Je pense que j'exerce un métier qui est à la douce frontière entre l'apparition et la disparition. Je fais de la radio, c'est mon quotidien depuis 15 ans. Et j'écris des livres où on est convenablement planqué derrière des pages imprimées. Mais en fait, ça peut paraître pas grand-chose, mais de pouvoir écrire un paragraphe où juste on regarde son père, on regarde son frère, on regarde ses filles, enfin, et on peut juste écrire avec des mots très simples qu'on les aime, qu'on a de la chance d'être là, qu'on a de la chance de faire cette promenade, qu'on a la chance de pouvoir rire de quelque chose, etc. Ben, c'est pas si anodin. Et donc, c'est pas tant de pouvoir le dire que de pouvoir l'écrire.
Est-ce que les mots sont des tiroirs pour vous ?
Les mots sont des merveilles et des galères pour moi. C'est-à-dire que ils sont des merveilles dans le sens où je considère, comme vous dites, que ce sont des tiroirs. Donc, je considère qu'il y a plein de choses dans les mots et que les mots qu'on utilise pour faire ou dire des choses sont des visions du monde, ont une action sur le monde. Enfin, j'ai un rapport sérieux avec les mots. C'est vrai. Hein. Mais c'est aussi une galère parce que quand on a un rapport sérieux avec les mots, on attend que le monde ait un rapport sérieux avec les mots. On attend que les autres aient un rapport sérieux avec les mots. Or, on ne vit pas dans un monde qui a un rapport sérieux avec les mots. On vit plutôt dans un monde qui défonce le langage à coups de hache en permanence et on vit dans un monde qui se repaît que les mots n'aient plus de sens. Ils fonctionnent sur le non-sens du langage, ce monde-là. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt une souffrance pour moi. C'est plutôt une bataille. Mais j'ai la chance d'être là ce soir, de parler avec vous de littérature dans une salle quand même peuplée, de travailler dans une radio où la question du langage, des mots, de la langue qu'on parle est une question centrale. Donc disons que j'ai choisi mes endroits pour voilà, que ce soit pas trop galère pour moi, quoi.
Est-ce que vous êtes l'officier radio de votre famille ?
Bonne question. J'ai mis longtemps à entendre que mon oncle était officier radio. C'est-à-dire que autant vraiment, j'ai jamais ignoré ce drame. Mais je pense qu'il y a un jour, je me suis dit, hein ? Ah oui, il était officier radio. Enfin, vraiment, j'ai entendu ça, quoi, et que c'était nouveau. Et évidemment, c'était bien après que j'ai commencé à faire de la radio et que ce soit si déterminant, si important dans ma vie, etc. Donc, évidemment, le jour où j'ai entendu que Charlot, il est officier radio, ça m'a interpellée. Ce serait un peu lourd d'être l'officier radio de la famille, parce que l'officier radio, vous savez, il quitte jamais le navire. C'est celui qui envoie les SOS. C'est celui qui fait tout le lien avec la terre, entre la terre et la mer. C'est celui qui donne les bonnes et les mauvaises nouvelles des familles, etc. Donc, honnêtement, flemme d'être l'officier radio de la famille. Mais en tout cas, je dois avouer que je l'écris dans le livre. Les traces des derniers échanges radio. Donc, on a un petit script des échanges que Charlot a eu avec les autres navires et avec la Terre au moment où les deux bateaux se sont rentrés dedans. Et c'est la chose la plus émouvante. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a le plus ébranlée. Donc, et je crois que ça ne m'a pas ébranlée que parce que c'est le drame. Ça m'a aussi ébranlée parce que ce geste-là, de parler dans un truc qui retransmet la voix et les mots ailleurs, est un geste qui continue de me bouleverser.
Parce que dans ce livre, on a la sensation quand même que vous faites office de lien, puisqu'on imagine que les protagonistes de ce livre vont lire le livre, ou ont sûrement lu le livre. Et donc, ont démarré une autre forme de communication, puisque vous avez des conversations assez inédites avec les uns et les autres. Et puis surtout, au final, on se demande si, en incluant votre oncle Charlot dans ces conversations, si finalement, vous ne faites pas famille avec ce livre.
En tout cas, c'est sûr que c'est un livre autour de la famille. Et la scène d'ouverture est une scène de famille. Et la scène de la fin est une... je peux la dévoiler pour les personnes qui ne l'ont pas lu, il n'y a aucun suspense. Je me promène sur la lande, en Bretagne, sur la, voilà, dans le brouillard. Je suis sur un chemin que je connais extrêmement bien. Il n'y a aucune visibilité, le brouillard est total, et je porte sur mon dos la fille de mon frère. Dans une promenade très tranquille, quoi. Et donc, c'est une scène de famille aussi. C'est un tout petit bébé qui vient de naître. Et au milieu, il n'y a que ça. Mais quand ce n'est pas ma famille, c'est d'autres familles. C'est-à-dire que je vais rencontrer une autre veuve d'un autre naufrage qui a lieu en 1979. Elle me parle de son mari, elle me parle de son père, elle me parle de ses enfants, elle me parle de ses petits-enfants. Enfin, ce n'est que ça.
Mais à cet endroit-là, est-ce que vous faites famille? Est-ce que vous faites corps avec des gens que jusque-là, vous ne connaissiez pas? Est-ce que Charlot rentre dans votre famille? Est-ce que toutes ces familles de veuves, de marins que vous rencontrez tout d'un coup font famille avec vous aussi? Est-ce que tout d'un coup, vous avez une nouvelle place de famille avec ce livre?
Je crois pas que je fais famille. Par contre, il y a quelque chose qui fait lien. Et si on pousse un tout petit peu, on va dire peut-être communauté. C'est peut-être... Mais vous voyez, c'est quand même un autre endroit que la famille. À un moment donné, je m'interroge. Enfin, donc je m'interroge pas mal dans ce livre quand même. Donc, voilà, je m'interroge. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi voilà? Et je dis, je fais ça pour entendre d'autres histoires que la mienne, qui se disent avec des mots communs, en effet. Donc, par exemple, je découvre un mail envoyé par le fils d'un des marins camerounais qui navigue sur le navire en question. Et il dit, voilà, mon grand-père est mort de chagrin d'avoir perdu son fils. Moi, c'était mon père, ma mère s'est quasiment laissée mourir de chagrin. Enfin, ben, il y a une façon de dire le chagrin, quoi. Et je me dis, ah tiens, c'est marrant, moi, j'ai pas eu de discours sur le chagrin pour cette perte. Et je constate, dans un effet très étrange, donc qui n'est peut-être pas un effet de famille, mais tout de même un effet de communauté, qui est que les mots écrits par cet homme que je ne connais pas, que je ne rencontrerai peut-être jamais, fils d'un marin camerounais qui naviguait avec mon oncle sur les manuels Delmas, ils viennent dire quelque chose d'un chagrin qui n'a pas été prononcé dans ma famille, mais c'est pas grave, c'est prononcé par lui, et donc c'est comme si les mots du chagrin retrouver leur bonne place. Donc ça veut bien dire qu'on est dans quelque chose où ça circule. De la même manière, sur le chemin pour venir ici, il faisait très chaud, et Pauline Hartmann, qui travaille donc avec Sabine Vespizer, mon éditrice, m'a remis une lettre qu'on avait reçue à la maison d'édition. Je l'ai lue en marchant, et cet homme raconte des choses sur la marine marchande, sur l'officier radio, sur des gens qu'il aurait connus, et j'avais précédemment cette semaine reçu aussi un autre courrier. Bref, ce que je veux dire, c'est que de fait... quand tu ouvres la porte comme ça, quand tu oses en effet poser quelques questions, dire les histoires, tu ouvres la ronde, quoi. Comme vous dites, c'est une famille commune, donc en fait, on ouvre la ronde. Depuis que ce livre est sorti, les gens me disent « Ah bah moi aussi, tu vois, moi aussi, pas moi aussi, j'ai perdu mon oncle officier radio dans un naufrage, mais ah moi aussi, j'ai pas été élevé par mon père, mais par mon oncle. Ah, moi aussi, j'ai eu cette conversation. Ah, moi aussi. » Donc, la littérature, ça fait quand même du commun, quoi.
Est-ce que c'est aussi un livre qui a changé votre perception de la frustration, puisque il y a dans ce livre,
j'aimerais,
des moments très émouvants au sujet de personnages qui auront cherché à démêler le pourquoi du comment de cet accident. Qui auront cherché, donc il y a votre tante, et puis il y a un autre officier radio,
qui vont vraiment batailler longtemps pour essayer d'en savoir plus sur ces derniers instants, sur les raisons de cet accident, les raisons finalement du drame qui se sera passé après l'accident, etc., etc. Et c'est bouleversant. C'est aussi bouleversant,
absolument, ouais,
que le drame en lui-même. Mmh. Est-ce que d'avoir écrit ce livre justement sur ces personnages qui ont passé une grande partie de leur vie à se battre en vain pour obtenir
pas grand chose,
est-ce que ça a changé votre perception de la frustration?
Il y a une phrase que mon père et que tout le monde m'a toujours répétée à propos de ce drame, c'est « on ne saura jamais ». Et je pense que parmi ce qui m'a aimanté, cette phrase-là a beaucoup joué, le « on ne saura jamais ». Et face à « on ne saura jamais », qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bataille? Est-ce qu'on déplace des montagnes pour savoir contre cette phrase « on ne saura jamais » ou est-ce qu'on accepte, quoi? On digère ce « on ne saura jamais ». Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a deux forces comme dans ce livre-là. Il y a ceux qui jamais n'accepteront, et puis il y a ceux qui s'en accommodent, quoi, ou qui semblent s'en accommoder. Et je ne sais pas si je fais vraiment un choix quand même en disant que il y a un autre on ne saura jamais dans le livre avec lequel peut-être je m'apaise, et peut-être que je m'apaise un peu avec tous les on ne saura jamais. Moi qui suis si avide de comprendre dans l'absolu, quoi. Et qu'il y a une façon dans ce livre d'épouser un peu plus tranquillement le brouillard, quoi. Dans la vie, il y a pas mal de trucs qui sont brumeux, quand même. Il y a quand même pas mal de choses qui sont indéfinies. Il y a pas mal de choses qui ne répondent à aucun critère précis. Et on ne saura jamais. Et toutes ces choses-là ne sont pas aussi dramatiques que l'élucidation d'un naufrage. Mais c'est quand même beaucoup de ça dont nous sommes faits. Donc, avec Officier Radio, je me réconcilier un peu avec le « on ne saura jamais ». Après, je pense que c'est dangereux de complètement se réconcilier avec la frustration de ne pas savoir, parce que désirer savoir, c'est quand même se mettre en mouvement. Moi, j'ai quand même commencé ce livre et j'ai été dans les archives, j'ai été rencontrer des gens, j'ai pris des trains, parce que je voulais savoir. Il y a quand même plein de choses dans la vie qui naissent du fait qu'on veut savoir. À commencer par la joie. Enfin, c'est très jubilatoire de vouloir savoir. Donc... ouais, c'est comme combattre, manifester, se révolter ou se tranquilliser avec les choses comme elles sont. Moi, je pense qu'il faut pas s'endormir non plus, quoi. Le désir de savoir, il est aussi porteur de vitalité.
Vous enregistrez les témoins que vous interrogez parce qu'il y a une dimension singulière dans votre rapport au monde autour de la voix. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez dans la voix? Qu'est-ce que c'est une voix pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez comme ingrédient dans la voix?
C'est tout. C'est vraiment... Et je ne sais même pas si je cherche, mais vous voyez, vous le dites et ça m'émeut. Donc c'est vraiment... C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, la voix. C'est qu'il y a quelque chose... C'est une phrase qu'on dit un peu comme ça à l'emporte-pièce. On dit on peut pas mentir dans la voix, mais c'est vrai qu'on peut pas mentir dans la voix. Je pense même qu'on peut moins mentir dans la voix que dans les yeux. On peut évidemment mentir dans les mots, dans mille trucs. On peut, mais il y a quelque chose dans la voix qui est quand même ce que nous sommes. C'est plus qu'une signature, quoi. C'est quand même quelque chose qui est organique. C'est du souffle, c'est la vibration des cordes. Enfin, c'est quand même, je sais pas. Je cherche rien, c'est juste que j'écoute. Je peux que constater que je fais ça tout le temps. J'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Dans votre livre, il y a une dimension très corporelle, j'ai envie de dire, très charnelle presque. Bien sûr, il y a le corps de ces marins disparus qu'on ne retrouve pas, mais il y a aussi tout ce que vous racontez de ce que vous vivez, et vous le vivez physiquement. D'abord dans les mouvements et puis aussi dans des ressentis et aussi parce que vous réagissez aux voix, aux phrases. Il y a des moments aussi où effectivement vous racontez que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là devant votre cousin, que vous voudriez partir, mais en même temps c'est bien d'être... Enfin voilà, donc on est avec vous dans toutes ces hésitations qui sont vraiment, qui relèvent de la présence, notre présence physique au monde et à l'autre. À quel moment avez-vous
eu des difficultés à écrire ce que vous ressentiez.
À écrire, hein, pas à vivre les choses.
Il y a un moment, par exemple, où vous dites, voilà, j'ai plus envie de poser des questions, je veux plus savoir.
Ouais, ouais, c'est à la basilique Sainte-Anne-d'Auray, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je me suis mis dans cette affaire. Et en effet, d'un seul coup, plus rien m'intéresse. Mais vous voyez bien, pour en revenir à la question de la volonté de savoir, c'est que plus rien m'intéresse, mais mon désir est éteint.
C'est ça.
C'est qu'en fait, quand plus rien m'intéresse, c'est pas bon signe. Donc, je préfère que les choses continuent de m'intéresser. Qu'est-ce qui m'a donné de la difficulté à écrire ?
Parce qu'on sent bien que vous le vivez, ce livre.
Ouais. J'ai eu, on va dire, de la difficulté, du labeur, en tout cas, à le composer. C'est-à-dire qu'une fois que la matière, on constate qu'elle est là, il y a un livre, comme on dit. À un moment donné, on voit, ah tiens, il y a un livre. Bon, mais en fait, quand il y a un livre, ça ne suffit pas. Donc, il y a, en l'occurrence, pour moi, je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais il y a quelque chose de la grande répétition du labeur, du montage, du mouvement, etc. Donc, disons que ça m'a demandé... Oui, c'était une difficulté, mais une difficulté de forme, en fait. Une difficulté dans ma recherche de justesse. C'est-à-dire que je voulais tellement que ça sonne juste... que j'ai cherché, quoi. J'ai cherché, j'ai bougé, j'ai... Voilà. Je vois des difficultés techniques plutôt que des difficultés... Il y a eu des moments d'écriture où j'ai dû, faire avec mon émotion, mais en fait, ça, c'est plutôt agréable comme expérience. Donc... y compris quand ce sont des choses qui te dépassent, y compris quand tu vois surgir dans le texte quelque chose que tu n'avais pas du tout invité et que tu es là genre « Ah, ok, donc on parle de ça aussi. » Voilà, et c'est remuant, etc. Mais bon, moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle. Enfin, c'est l'aventure que j'aime par-dessus tout dans l'écriture. Donc, c'est pas difficile. Techniquement, j'ai eu des moments où je me suis dit « Comment je rends ça ?» Voilà, « Comment je rends ci ? Comment je rends ça ?» Trouver la voie aussi, quoi.
Et c'est émouvant parce que vous racontez aussi dans ce livre comment, depuis toujours, depuis enfant, vous voulez comprendre. Mmh. Vous êtes en mouvement pour chercher à comprendre. Mmh. Et donc, ça a dû être très agaçant de devoir apprendre des choses par cœur si elles avaient à un moment donné une absence de sens. Ou en tout cas, qu'on ne vous l'ait pas expliqué.
Mais... Plus qu'agaçant, même.
Ah oui, ça, j'imagine que ça a dû être très dur.
C'était dur pour moi. L'école, je peux pas dire que c'était dur l'école, parce que je me suis parfaitement faufilée et j'étais ce qu'on appelle une très bonne élève. Mais j'étais une bonne élève qui naviguait entre ces impératifs, voilà, d'apprendre les choses sans sens. C'était un gouffre pour moi. C'était un gouffre. Donc, voilà. Ou bien j'ai contourné, ou bien j'ai galéré.
Et donc devenir journaliste, c'était aussi la possibilité de décider que vous pourriez chercher le sens des choses plus librement.
En tout cas, disons que sans refaire le parcours et la quand même dose de contingence et de hasard qu'il y a eu pour que je me retrouve à l'antenne de Culture. Pour des émissions quotidiennes, le fait, je crois que je me suis pas dit je vais devenir journaliste, quoi. J'ai fait des études, c'était de la recherche quand même, donc voilà. Donc, il y avait quelque chose de la recherche, en tout cas, j'ai trouvé un endroit où je pouvais continuer de chercher. Et aujourd'hui encore, tous les jours, c'est ça que je fais. Enfin, préparer une émission de radio, c'est chercher, quoi. C'est être à l'étude. En fait, je suis vraiment à l'étude. En fait, c'est vraiment ça que c'est comme ça que je veux vivre, moi. Si j'en ai le luxe. C'est de continuer d'étudier, de continuer de chercher, de continuer de vouloir comprendre. Après, le livre, je crois, ouvre une nouvelle possibilité pour moi, qui est de ne pas lâcher ça, parce que ça a à voir avec le désir, on l'a déjà dit, mais que parfois, ne pas comprendre, accepter de ne pas comprendre et demeurer dans le brouillard, est un endroit qui peut être aussi intéressant.
Et pour finir, Marie Richeux, il y a une dimension très intéressante dans ce livre sur l'enfance. L'enfance de votre père, l'enfance de ses frères, votre enfance, celle de vos filles qui sont avec vous dans ce livre, qui accompagne l'écriture et qu'on voit avec parcimonie, mais d'une façon très jolie.
Est-ce que finalement, écrire sur la mort, c'est aussi, d'une certaine façon, écrire sur l'enfance, de fait ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'écris dans ce livre-là, j'écris avec les enfants. Parce qu'en effet, il y a l'enfance de mon cousin, il y a l'enfance de mon père, qui est un continent assez difficile à atteindre, quoi.
Enfin, vous arrivez à des jolies choses, hein.
Ah bon ? Bah, tant mieux.
Ça semble mettre du temps, mais ouais. Quand même, vous arrivez à des jolies choses.
Il y a quelque chose dans l'enfance de mon père qui a semblé toujours, oui, très lointaine, et puis difficile parfois à se représenter, voilà. Et en effet, ce livre-là, c'est l'occasion d'avoir quelques éléments en plus, quelques scènes, et puis là, il n'y a pas très longtemps, il m'en a re-raconté d'autres. Et comme vous dites, ça n'a rien d'extraordinaire, en fait. Enfin, c'est vraiment un petit garçon breton qui grandit dans les années 50, dans une petite ferme. C'est pas la misère, c'est l'espèce de très, très grande sobriété. Enfin, bon, voilà. Donc, j'écris avec cette enfance-là, c'est sûr. Enfin, en tout cas, je suis, et avec goût, quoi, proche de l'enfance de mon père.
Mais c'est intéressant parce qu'entre les lignes, on a l'impression que vous nous invitez à réfléchir à des petites morts que nous avons dans notre vie quand nous grandissons.
Mmh. Oui, bah, commencer par la première, quand même, que je ne pensais pas évoquer dès la première page et qui est la survenue des règles pour les petites filles, grandes filles. En l'occurrence, bon, là, je le situe à peu près à l'âge de 11 ans. Mais c'est une sortie de l'enfance, c'est vrai. Dans le livre, je dis que... Et je pense que c'est une expérience très commune pour les jeunes filles et pour les femmes. C'est quand même quelque chose d'un événement de corps. On parlait de la manière dont les phrases bousculent nos vies, mais il y a des événements de corps qui bousculent nos vies à jamais. Donc je pense que ça, par exemple, avoir ses règles pour la première fois pour une enfant, parce que quand même, quand on a 11 ans, on est encore une enfant, c'est quelque chose de... qui est une petite mort qu'on pourrait transformer. D'ailleurs, je pense que le monde, comme il va, est en train de transformer les choses et permettre aux filles d'arriver dans un nouveau temps de leur vie et dans un nouveau temps de leur corps autrement. Ça, c'est une petite mort.
Votre père qui doit quitter cette famille à un moment donné si jeune.
Ça, je pense que c'est une grande mort.
Ça, c'est vraiment dur.
Ouais. Mais ça aussi, c'est très commun. Combien d'enfants ont dû quitter le domicile familial pour partir en pension, parce que bah, la vie à la campagne, c'est comme ça. Si tu veux étudier, puis c'était un peu le début en fait de cet exode là. Il faut partir loin, ne pas revenir. Il y a pas de à peine de téléphone, un tout petit peu de courrier. Ça, c'est pas une petite mort, je pense. Ça, c'est
mais d'écrire justement tous ces passages sur ce livre vous ont fait regarder l'enfance autrement maintenant que vous avez terminé ce livre.
En tout cas, ça m'a fait regarder l'enfance, et regarder l'enfance, c'est toujours, je veux dire, regarder l'enfance des adultes, mais aussi les enfants. C'est quelque chose de très important, de très précieux, de très vivant, et pas du tout que du côté mignon, tendre et jovial. Enfin, il y a une poussée révolutionnaire dans l'enfance. Il y a une Vous parlez tout à l'heure, au début, on a commencé la conversation en disant un rapport entier au monde, mais s'il y a bien un endroit où il y a un rapport entier au monde, c'est quand même à cet endroit-là. Donc, disons que ça m'a permis, pas tant de regarder mon enfance ou l'enfance de mon père, quoique quand même un peu l'enfance de mon père, mais de regarder l'enfance, quoi. Toujours, mais de toute façon, moi, je veux vivre comme ça. Je veux regarder les enfants et l'enfance.
Et ma dernière question, Marie-Richeuse, sera au sujet de votre oncle. Est-ce que depuis que vous avez écrit ce livre, d'une façon ou d'une autre, il existe dans votre univers autrement ? Est-ce qu'il est présent ?
Malheureusement, pas comme ce que je croyais faire. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le livre, je me suis bien rendu compte que... Mais bon, il y a des témoignages de lecture qui vont contre ça, donc j'accepte. Hein, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que je... ne parvenait pas à faire le portrait de Charlot. Et que ce livre-là ne me ferait pas le rencontrer. Et je n'ai pas cette sensation-là. Ouais. J'ai rencontré les vivants. J'ai rencontré les vivants qui parlent des morts, mais non, il n'est pas... Et d'ailleurs, je ne l'avais jamais pensé comme ça, mais je raconte aux Archives nationales que j'ai la sensation d'un mort qui insiste pour mourir une fois pour toutes. J'écris ça. Je dis, ah, c'est comme si je regardais tous ces documents et comme si il insistait pour mourir, quoi. C'est une pensée un peu magique, c'est une pensée un peu romanesque. Mais donc, peut-être que, au contraire, peut-être qu'il est encore plus parti. Peut-être que, voilà.
Oui, puis à cet endroit-là, vous citez aussi Mendelssohn, dont vous, en fait, qui dit qu'un livre est une pierre tombale aussi.
Ouais.
Donc à cet endroit-là, en fait, oui. On voit bien.
Peut-être que ça matérialise plus son absence et sa mort que sa vie. Ça échoue. Enfin, je trouve le roman, il échoue à faire ça. On n'attrape pas grand-chose. De lui, je trouve.
Mais on reste bien avec les vivants. Merci beaucoup, Marie-Richard.
Merci infiniment à vous. Merci. Et merci à vous.